Laurie Kenton, bonjour.
Bonjour.
Toute la campagne de Donald Trump en 2015-2016 a reposé sur un constat alarmiste. Le rêve américain est mort et donc une promesse, lui, l'homme providentiel, allait le ressusciter. On peut donc légitimement se demander si sa présidence est à la hauteur de cette promesse et c'est l'objet de cet ouvrage que vous co-dirigez, Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump. Tout d'abord, qu'entend-on par rêve américain ?
Alors, le rêve américain, c'est différentes choses. Ça peut avoir une acception très matérielle qui est généralement reprise par les symboles du pavillon de banlieue, cossu, les voitures dans le garage et les enfants qui jouent devant la maison. Quelque chose d'un petit peu iconique et d'un petit peu stéréotypique. Mais c'est pas seulement l'aspect matériel, ça peut être aussi l'aspect immatériel. L'aspect matériel, c'est l'ascension sociale. Et l'ascension sociale, ça se traduit pas forcément par beaucoup d'argent. Ça peut être aussi faire ce qu'on aime et faire ce qu'on aime, c'est pas forcément très rémunérateur, mais l'important c'est de réussir sa vie. Réussir sa vie, ça peut aussi avoir des aspects immatériels, c'est avoir une vie de famille équilibrée, épanouissante, et c'est aussi une forme d'accomplissement de soi, être respecté pour ce que l'on est dans son identité sexuelle, ethno-raciale, politique, etc.
Et il y a aussi une dimension extérieure à ce rêve américain.
Il y a une dimension de puissance, disons, une dimension internationale. C'est-à-dire que l'aspect impressionnant, l'aspect respect sur la scène internationale est aussi assez indissociable de cette dimension intérieure. Et rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est les deux tableaux, à la fois rendre sa grandeur aux Américains qui estime l'avoir perdu et remettre l'Amérique sur le devant de la scène internationale, la rendre respectée à nouveau alors qu'elle était plutôt humiliée, bafouée par ses concurrents, rivaux sur la scène internationale.
Voire par ses alliés dans les discours de Donald Trump. Alors justement, America First, 4 ans plus tard, quel est le bilan notamment des guerres commerciales, des guerres tarifs douaniers que Donald Trump a pu déclencher, soit vis-à-vis d'alliés, les Européens ou les Canadiens, ou vis-à-vis de la Chine?
Le bilan, selon qu'on demande aux républicains ou aux démocrates, il va être très contrasté. Les démocrates vont vous dire que c'est une catastrophe, les républicains vont vous dire que c'est fantastique. La vraie réalité, on va dire, la réalité chiffrée, elle est elle-même l'objet de débats entre économistes, aussi parce que les économistes voient l'économie sous un prisme partisan, mais ce que l'on voit, c'est que les emplois n'ont pas forcément tous été recréés, parce que ça n'est pas possible, qu'une partie de ce qui a été gagné d'un côté a été perdu de l'autre, parce que le protectionnisme est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que ce qu'on prend à l'un, l'autre le prend sur nos exportations. Donc de ce point de vue-là, c'est un jeu un petit peu dangereux qui crée des tensions, qui éloigne les partenaires. Mais en revanche, ce qu'on peut mettre au crédit de Trump, c'est d'avoir remis sur la table quelque chose que personne ne voulait mettre sur la table, c'était la question de la Chine. Et là, on a atteint une sorte de point de non-retour où les démocrates ne reviendront pas sur un certain nombre de décision vis-à-vis de la Chine. Peut-être que stylistiquement, évidemment, ils vont pas faire du Trump, mais on remarque que même l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine, elle a changé de pied. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez notable, c'est que l'économie mondiale a complètement pivoté vis-à-vis de la Chine de ce point de vue-là, puisque une sorte de tabou a été brisé par Trump. Bon, ça, il le fait très bien. Mais là, c'est quelque chose qui devrait durer, qui s'installe comme une sorte de nouveau consensus.
Et c'est un nouveau consensus qui revient sur 40 ans d'histoire et de diplomatie américaine, parce que depuis les années 70, les États-Unis pensaient qu'il fallait inclure la Chine dans le système libre-échangiste.
Alors d'abord, pendant la guerre froide, même on peut remonter plus loin, pendant la guerre froide, les États-Unis étaient le champion du capitalisme, du marché libre, face aux vilains soviétiques qui faisaient tout le contraire. Donc c'est beaucoup plus profond. Et ensuite, à partir du moment où il n'y a plus de guerre froide, où on redéfinit un ordre international post-guerre froide, là, l'idée, c'est de réintégrer déjà les économies de l'Est, mais après, ce gros morceau chinois. Et c'est Bill Clinton qui fait rentrer le futur géant chinois, le géant endormi, on va dire, dans l'OMC. Et à ce moment-là, c'est un peu faire rentrer le loup dans la bergerie. Et là où on voit, en gros, le côté vraiment disruptif de Trump, c'est dans le camp républicain, puisqu'il dynamite complètement l'orthodoxie républicaine.
Qui est très en faveur du libre-échange.
Qui est en faveur du libre-échange, en faveur d'une certaine immigration, parce que ça permet d'avoir de la main-d'œuvre quand même pas chère. Les républicains pro-business aiment beaucoup l'immigration, même clandestine, parce que ça fait des travailleurs pas chers. Là, Trump dynamite cette orthodoxie dans son combat pour l'investiture républicaine, avant le face-à-face avec les démocrates.
Alors, sur le plan intérieur, un certain nombre d'ouvriers de la Rust Belt, la ceinture de rouille de la région des Grands Lacs, avaient donc voté pour Donald Trump, croyant dans son credo du retour des emplois. Quel est leur ressenti? Parce qu'on sait que pour un deuxième mandat, c'est avant tout le ressenti économique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est mieux dans ma vie personnelle et professionnelle? Quel est le ressenti aujourd'hui pour ces ouvriers?
Il y a deux visions, en fait. Il y a une vision rétrospective qui serait celle du bilan économique. Est-ce que j'ai retrouvé un emploi? Et celle qui est prospective. Comment ça va être après? Et donc, la question de savoir, est-ce que je revote Trump, disons au bénéfice du doute, ou est-ce que je vote pour l'autre côté, c'est aussi se dire qui est le plus à même de me trouver l'emploi que je n'ai pas eu pendant ces 4 années. C'est là que la dimension prospective est centrale. Et donc le calcul, si on part dans une optique rationnelle, de vote rationnel et pas de vote vraiment instinctif, ce qui est aussi beaucoup ce qui se passe, le vote rationnel c'est de se dire, à choisir entre Biden, qui peut être plus modéré, plus respectable, etc., et Trump, qui est un petit peu foufou sur Twitter et pas forcément très respectable en tant qu'homme, lequel des deux est le plus à même de faire repartir l'économie? Ou au moins qu'elle se casse la figure un peu moins que l'autre. Et là, le calcul, c'est plutôt Trump. Donc c'est pour ça que le bénéfice du doute, il peut perdurer, parce que les républicains en général, et Trump en particulier, sont ceux qui, quand on demande à l'opinion, ont le bénéfice du doute par rapport aux démocrates quant à la prospérité économique. Biden est devant très largement dans tous les domaines. Le rétablissement de la paix civile, les inégalités raciales, etc. Il y a un domaine où Trump bénéficie du bénéfice du doute, et ben c'est l'économie. Et donc c'est peut-être ce qui pourrait le sauver, non pas son bilan, mais le fait que les autres en face, leur clientèle électorale, c'est plutôt les minorités urbaines des côtes et pas moi, le petit ouvrier blanc de la Rust Belt. Donc moi, je sais que je n'aurai rien si les démocrates repassent. Peut-être que si c'est Trump, peut-être que si c'est les républicains, j'ai une chance.
Le parti démocrate n'a pas réussi à récupérer au cours des 4 dernières années une partie de la population, de la classe ouvrière qu'il a perdue en 2016.
Il s'y emploie et Biden est très fort pour ça. Biden a sillonné la Rust Belt.
Michigan, Wisconsin, la Pennsylvanie. Et d'ailleurs, il a lancé sa campagne en Pennsylvanie.
Mais il est né en Pennsylvanie. Hillary Clinton était aussi de Pennsylvanie, ça ne va pas porter bonheur. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont appris de leurs erreurs, de fait de ne pas y aller, le fait de ne pas parler à ses électeurs. Et donc, ils ont essayé de corriger le tir. Et là, ça, l'anti-Trumpisme jouant également, ils ont une chance de récupérer cet électorat qui n'aurait jamais dû leur échapper en réalité.
Oui, parce qu'on parlait bien du mur bleu dans cette zone. Merci beaucoup, Laurie Kenton.
Merci à vous.